tout de suite le journal. Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Des grèves et des manifestations se déroulent un peu partout en France. Aujourd'hui, à l'appel de la CGT pour réclamer une hausse des salaires et plus de justice fiscale, une journée d'action test pour la centrale syndicale en particulier, après qu'une partie des gilets jaunes se soit convertie à la convergence des luttes prônées par la CGT sans grand succès jusqu'ici.
Et puis la hausse des salaires est aussi la première revendication des stylos rouges, ces professeurs en colère dont le mouvement est né ces dernières semaines sur les réseaux sociaux.
Mais le SNUIPP, premier syndicat dans le primaire, organisé ce matin un rassemblement devant le ministère de l'Éducation nationale.
Aux États-Unis, Donald Trump prononcera ce soir le traditionnel discours sur l'état de l'Union.
Une fois par an, le président des États-Unis s'adresse au Congrès pour dresser le bilan de l'année écoulée, mais aussi évoquer l'avenir. Un discours initialement prévu fin janvier, mais qui avait dû être repoussé à cause du fameux shutdown, signe du climat politique délétère qui règne actuellement à Washington.
Et dans cette édition également, la fin de la visite historique du pape François aux Émirats arabes unis.
Ce matin, une messe en plein air inédite a été célébrée dans ce pays de la péninsule arabique qui tolère certes la pratique de la foi chrétienne, mais à la condition qu'elle reste discrète. Enfin, invité du journal dans une dizaine de minutes, Patrick Leyarric, directeur du journal L'Humanité, le quotidien en cessation de paiement, a lancé la semaine dernière un appel à la mobilisation générale pour l'aider à surmonter ses difficultés financières. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
On va pointer aujourd'hui avec notre invité les dysfonctionnements de notre démocratie actuelle et surtout tenter de comprendre à travers le traité d'art politique qu'il a rédigé « Comment repenser notre modèle démocratique ». Le philosophe Pierre-Henri Tavoyot est notre invité à l'occasion de la parution de son essai « Comment gouverner un peuple roi ?» C'est chez Odile Jacob.
Merci, à tout à l'heure. Si l'émergence des gilets jaunes aura mis en évidence un sentiment de mécontentement, d'impatience, voire d'exaspération au niveau national, ce mouvement inédit aussi bien par ses méthodes que par sa nature profondément hétéroclite aura surtout conduit l'exécutif à devoir affronter une crise totalement atypique, qu'il s'agisse des mots d'ordre, de la contestation, aussi divers que parfois contradictoires, mais aussi de l'absence de leaders identifiés ou de la défiance à l'égard des corps intermédiaires traditionnels. Tous ces éléments laissaient entendre que le surgissement des gilets jaunes traduisait au fond l'existence de deux Frances qui ne se comprennent pas. Même les syndicats, censés gérer pourtant la défense des intérêts communs, refusaient jusque-là tout lien avec ce mouvement, chacun des deux camps semblant se regarder avec méfiance. Et puis les revendications des gilets jaunes s'étant élargies au fil des semaines, certains ont fini par réviser leur discours. C'est le cas en particulier de la CGT qui appelle aujourd'hui à une journée d'action nationale pour le pouvoir d'achat et la justice fiscale avec, à leur côté et pour la première fois donc, des gilets jaunes. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors au-delà des cris de manifestation dans la rue et des barrages montés sur les ronds-points, faut-il voir dans cet appel un début possible de convergence?
Oui, eh bien si Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT, était jusque-là méfiant, hein, en effet, vis-à-vis du mouvement des gilets jaunes, qu'il craignait noyauté par l'extrême droite, il a en effet changé de discours en estimant que de nombreuses revendications sociales des gilets jaunes rejoignaient celles que son syndicat portait depuis longtemps. De là à se retrouver tous ensemble, comme scande traditionnellement les militants cégétistes dans les manifestations, on verra vraiment cet après-midi, mais il est vrai que ces derniers jours, des personnes se revendiquant de gilets jaunes ont multiplié sur les réseaux sociaux les appels à rejoindre l'initiative de la CGT, comme Éric Drouet, l'une des figures du mouvement. Petit à petit, la convergence se fait, se réjouit Aurélie Trouvé, la porte-parole d'Attaque, qui sera également de la partie, comme Solidaire, le NPA, le Parti communiste ou encore la France insoumise. N'oublions pas les jeunes, hein, comme l'UNEF, l'UNEL ou Jeunesse ouvrière, qui seront également dans les cortèges. Voilà pour ceux qui ont déclaré leur participation. Y aura-t-il des invités surprises, des gilets jaunes plus radicaux, des Black Blocs, des Antifa? Là encore, réponse cet après-midi. En tout cas, plus de 160 manifestations sont prévues aujourd'hui. Des préavis de grève ont été déposés dans la fonction publique, dans les transports. Des manifestations et barrages filtrants se déroulent un peu partout en France. Ça a commencé au petit matin à Rungis, où des cégétistes et des gilets jaunes ont bloqué dans le calme l'une des quatre entrées du marché. Dans la matinée, la convergence entre gilets jaunes et syndicats était visible en Normandie, dans le Tarn, à Toulouse ou encore à Strasbourg, où ce sont d'ailleurs les gilets jaunes qui menaient le cortège.
Merci Annabelle Grolier. Et en cette journée d'appel à la grève, donc ce matin, le SNUIPP, premier syndicat dans le primaire, organisa lui un rassemblement devant le ministère de l'Éducation nationale afin de demander une augmentation des salaires, comme l'avait promis Emmanuel Macron. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors face à la grogne des professeurs, le gouvernement s'apprête en effet à instaurer l'an prochain une mesure qui rend obligatoire une seconde heure supplémentaire de cours par semaine pour leur donner donc plus de pouvoir d'achat. La mesure doit être actée dans un texte d'ici quelques semaines. Sauf que cette mesure concernera essentiellement le secondaire et surtout pas les professeurs du primaire, Hakim.
Oui, ainsi Jean-Michel Blanquer prévoit une revalorisation des salaires à la rentrée. Elle sera très ciblée et ne va pas profiter à tout le monde. Elle va surtout concerner les enseignants de REP+, en zone d'éducation prioritaire. Ils devraient toucher, si le ministère de l'Éducation tient ses promesses, 2 à 3 000 euros de plus par an d'ici la fin du quinquennat. La dernière tranche, soit 1 000 euros, sera elle, eh bien, au mérite, un peu comme dans les entreprises privées. Ce que dénonce Françoise Pobineau, la secrétaire générale du SNUIPP.
Je crois que c'est aujourd'hui notoire que les enseignants français sont mal payés, très en dessous des enseignants des autres pays européens. Ce n'est pas un élément d'attractivité, hein, quand on démarre dans ce métier avec un master, c'est-à-dire Bac+5, et que son premier salaire, c'est 1400 euros, c'est vraiment pas un facteur d'attractivité. Donc il faut relever les salaires, c'est-à-dire dégeler ce fameux point d'indice, hein, puisque notre salaire est calculé sur un point d'indice, qui est gelé depuis un certain temps, qui a été dégelé un petit peu il y a quelques années et qui maintenant est de nouveau gelé. Donc on demande là, nous, notre prime de Noël comme tout le monde, puisqu'il avait été question de cette prime, mais on demande surtout une revalorisation salariale, bien évidemment.
Une prime de Noël qui n'est pas du tout à l'ordre du jour, selon le ministère. Quant aux enseignants du secondaire, s'ils pourront bénéficier de 2 heures supplémentaires l'année prochaine, défiscalisées, notamment pour compenser les plus de 2000 suppressions de postes prévues par Jean-Michel Blanquer, cela sera pratiquement pas le cas pour les professeurs du primaire, qui avec déjà 24 heures de cours par semaine devant élèves, sans compter le temps de préparation et de correction des copies, auront donc une marge de manœuvre bien moins importante pour éventuellement avoir des heures supplémentaires, Thomas.
Merci Hakim Kasmi. Le grand débat national susciterait-il des vocations ? Depuis quelques jours, la majorité présidentielle elle-même semble traversée par l'envie d'exprimer ses craintes au risque de faire entendre des voix dissonantes, alors que l'hypothèse d'organiser un référendum est loin visiblement de faire l'unanimité. Aujourd'hui, c'est au tour de la loi anti-casseur de créer une ligne de fracture chez les députés de La République En Marche. Le texte doit être voté aujourd'hui à l'Assemblée et déjà plusieurs élus de la majorité ont fait savoir qu'il s'abstiendrait, voire qu'il voterait contre cette proposition de loi. En cause, l'article 2 de ce texte qui prévoit la possibilité pour les préfets de prendre une interdiction administrative de manifester à l'encontre de toute personne qui constitue une menace pour l'ordre public. De son côté, l'ensemble de la gauche, à l'unisson d'ailleurs de certains syndicats et associations, est farouchement contre cette proposition de loi qu'elle juge liberticide. Les élus du Rassemblement National, après quelques tergiversations, ne devraient pas non plus voter le texte. La droite, en revanche, devrait se prononcer pour. Le bilan de l'incendie qui s'est déclaré cette nuit dans un immeuble du 16e arrondissement de Paris s'est alourdi à 10 morts et une trentaine de blessés, bilan toujours provisoire puisque les secours sont toujours en train de fouiller le bâtiment à la recherche d'autres éventuelles victimes. L'immeuble ne présentait pas a priori d'éléments d'insalubrité, a déclaré ce matin le ministre chargé de la ville et du logement, et c'est d'ailleurs la piste criminelle qui semble pour l'heure privilégiée. Une femme habitante de l'immeuble, décrite par le procureur de la République de Paris comme présentant des troubles psychiatriques, a été arrêté et placé en garde à vue. En pleine offensive de la France pour mieux taxer les géants du numérique, le groupe américain Apple a annoncé ce matin avoir trouvé un accord avec le fisc afin de solder 10 années d'arriérés d'impôts. La transaction s'élèverait à près de 500 millions d'euros. Et quand l'on parle grand capital, le journal L'Humanité, lui, n'est jamais très loin. Le quotidien communiste fête cette année ses 115 printemps, avec l'espoir surtout de continuer à faire vivre cette institution fondée en 1904 par un certain Jean Jaurès. Il y a quelques jours, le journal a été contraint de se déclarer en cessation de paiement auprès du tribunal de commerce de Bobigny. Depuis, il a lancé un appel à la mobilisation générale pour l'aider à surmonter ses difficultés financières. Et jeudi, le tribunal dira donc si sa demande de placement en redressement judiciaire avec poursuite d'activité est acceptée ou non. Pour en parler avec nous en direct et en duplex, donc depuis le siège de l'Humanité, Patrick Le Yarrick, directeur du journal. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Audrey Dumain. Bonjour Audrey.
Bonjour Thomas.
Une première question toutefois, Monsieur Le Garrick, avant d'évoquer donc la situation du journal. J'aurais souhaité connaître votre sentiment après la tentative de perquisition hier par le parquet de Paris de Mediapart dans le cadre de l'affaire Benalla. Diriez-vous, comme une bonne partie de l'opposition, que c'est là le signe d'une utilisation de la justice par le pouvoir à des fins politiques?
Oui, c'est une opération qui est d'ailleurs se fait contre la législation. On ne rentre pas dans les rédactions et vraisemblablement c'est pour tenter de cacher un certain nombre de choses.
Quoi par exemple?
Je ne sais pas. Ceux qui ont commandité cette opération doivent le savoir.
Une question d'Audrey.
Donc Patrick Le Garrick, vous saurez jeudi le 7 février si votre demande de placement en redressement judiciaire avec poursuite d'activité est acceptée par le tribunal de commerce de Bobigny. La semaine dernière, une première audience a déjà eu lieu à huis clos. Ce n'est pas la première fois que le journal se retrouve en difficulté financière. Vous avez d'ailleurs déjà fait plusieurs appels à la souscription et aux dons. Cette année, les chiffres ne sont pas vraiment bons. Le journal n'a vendu que 32 724 exemplaires durant la période 2017-2018. C'est 6% de moins que l'année précédente. On sait que la presse est en crise, mais ça semble plus compliqué pour l'humanité. Pour quelles raisons?
D'abord, je conteste les chiffres que vous donnez, puisqu'on dépasse largement les 50 000 lectrices et lecteurs. Je ne sais pas d'où sortent ces chiffres. Je ne sais pas qui fabrique...
Du baromètre de l'Alliance pour les chiffres de la presse
et les médias. Oui, mais je les conteste. Le nombre d'abonnés à l'Humanité en 2018 a progressé de 6% et à l'Humanité Dimanche de 2%. Et nos viandes en kiosque qui restent à un bas niveau ne se sont pas effondrées et sont dans la moyenne de l'ensemble de la presse. Par conséquent, on n'est pas dans les niveaux qui sont jetés dans un certain nombre de journaux et de radios et que vous êtes en train de reprendre là. Notre problème fondamental, c'est une question de sous-capitalisation de l'ensemble des titres de presse. Mais la différence entre nous et les autres, ils ont reconstitué leurs capitaux parce qu'ils se sont tous adossés à des groupes industriels et financiers.
Lors de votre appel à la mobilisation générale le lundi 28 janvier, vous avez donc énoncé quelques raisons pour lesquelles vous êtes dans cette situation aujourd'hui, et vous avez notamment pointé le rôle de l'État qui aurait contribué à la dégradation de votre trésorerie. Est-ce que les aides à la presse ne sont plus suffisantes aujourd'hui?
C'est-à-dire, il y a une question constitutionnelle, c'est que l'État est garant du pluralisme de la presse, est garant de la démocratie. Donc il faut trouver aujourd'hui des mécanismes qui, pour des journaux qui ne sont pas adossés à des puissances d'argent, qui puissent vivre, parce que il y a plusieurs manières d'étouffer la liberté de la presse. Il y a malheureusement ce qu'on connaît dans de nombreux pays au monde. Il y a les restrictions qu'on est en train de connaître de ci, de là. Il y a les fausses informations que tout le monde semble combattre, mais il y a aussi l'étranglement d'organes de presse. C'est un peu ce qui nous arrive.
Et à plusieurs reprises, vous avez donc lancé des souscriptions populaires pour sortir la tête de l'eau en 2008, mais aussi 2014, 2015, 2016, cette année encore. En quelques semaines, vous avez d'ailleurs récolté plus d'un million d'euros. Le syndicat SNJ du journal propose une réelle recapitalisation populaire qui dépasserait les simples appels aux dons. Les personnes donc qui vous soutiennent aujourd'hui pourraient devenir actionnaires. Est-ce que c'est une solution à laquelle vous pensez?
L'humanité n'est pas à vendre, et donc nous nous engagerons pas, surtout en ce moment, dans des opérations qui viseraient à faire croire que c'est cette méthode-là qu'il faut employer. On vient de récolter en quelques jours 475 000 euros. C'est bien plus que toute opération de recapitalisation populaire que nous pourrions faire. Et évidemment, ce travail de campagne de dons et de souscriptions va se poursuivre. Mais il n'y a pas aujourd'hui de sujet d'ouverture du capital de l'humanité.
On a beaucoup évoqué le retour en grâce de la presse d'opinion en mettant en avant des titres comme Valeurs Actuelles. Vous insistez vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, sur l'importance du pluralisme dans le paysage médiatique. Est-ce que l'humanité pourrait bénéficier de ce retour en grâce? Est-ce qu'il y a une carte à jouer que vous n'avez pas encore saisie?
Il y a un espace pour l'humanité. Il est difficile peut-être à ouvrir, il est difficile à défricher, mais compte tenu du dispositif de la presse écrite, je parle de la presse écrite nationale et la presse écrite d'opinion dans laquelle nous nous situons, d'information générale et d'opinion, c'est qu'il y a un espace considérable l'humanité est le journal de l'ensemble de la gauche progressiste, de la gauche écologiste, sociale et intellectuelle. Et donc ce travail-là, qui est entamé maintenant depuis un certain nombre d'années, doit être mieux connu qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est un de nos handicaps.
Et alors la solution, ce serait peut-être pas le numérique, justement. L'humanité a peut-être encore des progrès à faire là-dessus.
Mais le numérique, on raconte beaucoup d'histoires autour de cela. De toute façon, pour faire du numérique, il faut des bâtiments, il faut de l'eau, du gaz, de l'électricité, il faut des gens pour écrire. Or, le numérique à charge quasi constante, à dépenses constantes, c'est toujours des prix dégradés. D'ailleurs, une des questions qui est posée à l'humanité, c'est que la modification du lectorat, le début de modification du lectorat de l'humanité, du papier vers le numérique, puisque maintenant nous sommes à peu près à 5000 abonnés numériques, conduit à dégrader nos comptes, puisque la pression sur le pouvoir d'achat qui fait que les gens ne peuvent pas acheter le journal papier au prix où nous le mettons, et donc qui fait que nous dégradons nos prix, même papier, et le transfert sur le numérique font que nous perdons de l'argent. Et donc ça, c'est quelque chose que un certain nombre d'institutions agitent, mais ce n'est pas un modèle viable pour l'instant.
Merci Patrick Le Yarrick, donc directeur de l'Humanité sur France Culture.
Et merci à vous Audrey Dumain, ainsi qu'à Raymond Alboué pour les moyens techniques. Donald Trump saura-t-il prendre de la hauteur? Son allocution solennelle ce soir à l'occasion du traditionnel discours en prime time sur l'état de l'Union devrait lui en offrir l'occasion, selon les premiers extraits diffusés par la Maison Blanche. Le tempétueux président américain devrait a priori lancer un appel à l'unité avec une tonalité résolument optimiste. Sauf qu'à 21 mois maintenant de l'élection présidentielle, le chef de l'État devra naviguer entre sa volonté affichée, donc de se poser en rassembleur, et son instinct, le poussant à galvaniser sa base, provocation à l'appui. À cela, il faut encore ajouter le climat politique délétère à Washington qui le place aujourd'hui en position difficile. Et d'ailleurs, s'il fallait encore s'en convaincre, une image devrait à elle seule résumer ce soir la difficulté de l'exercice pour le président américain lorsqu'il prendra la parole devant les élus au grand complet. Nancy Pelosi, la nouvelle speaker de la Chambre des représentants, sera, comme le veut la tradition, assise derrière lui dans le champ des caméras. C'est une correspondance à Washington signée Grégory Phillips.
L'an passé, dans un discours de 80 minutes, Donald Trump avait surtout vanté ses résultats économiques et longuement disserté sur les enjeux de sécurité nationale liés à l'immigration illégale. Pour son second discours sur l'état de l'Union, la Maison-Blanche laisse entendre que le président sera rassembleur et qu'il devrait appeler à la fin des divisions, au compromis, mais c'est sans doute un vœu pieux, alors que depuis janvier, la Chambre des représentants est dominée par les démocrates et que les États-Unis sortent à peine d'un shutdown record. Les administrations ont été partiellement paralysées pendant plus d'un mois, précisément parce que démocrates et républicains n'ont pas réussi à trouver d'accord sur le projet de mur que Donald Trump veut à la frontière mexicaine. La tradition veut aussi que l'opposition réponde au discours du président. Pour ce faire, les démocrates ont choisi Stacey Abrams, remarquée lors des dernières élections de mi-mandat, alors qu'elle était à deux doigts de devenir en Géorgie la première femme noire gouverneure d'un État américain.
Et j'ajoute signe du malaise provoqué dans les propres rangs républicains. Le Sénat a approuvé hier une très large majorité un amendement qui critique la décision du chef de la Maison-Blanche de retirer les troupes américaines de Syrie et d'Afghanistan. Alors que les États-Unis n'écartent pas la possibilité d'une intervention militaire pour renverser le régime de Nicolas Maduro au Venezuela, ainsi que l'a encore suggéré Donald Trump lui-même dimanche dernier, hier, 11 des 14 pays qui composent le groupe dit de Lima, 10 pays latino-américains et le Canada, ont appelé dans une déclaration commune à une transition démocratique, rapide, mais sans violence ni ingérence étrangère armée. Le document exhorte également les forces armées à prêter allégeance au président de l'Assemblée nationale, Juan Guaido. Un communiqué jugé répugnant et risible par Nicolas Maduro, le président élu qui n'a pas manqué par ailleurs de critiquer les pays européens qui quelques heures plus tôt avaient reconnu l'opposant, donc Juan Guaido, comme président par intérim. La fin d'un voyage historique de 3 jours aux Émirats. Le pape François, premier souverain pontife, se rendre dans la péninsule arabique, a clos aujourd'hui sa visite aux Émirats arabes unis par une messe inédite en plein air. Pour l'occasion, quelques 150 000 fidèles étaient réunis dans le grand stade d'Abu Dhabi. Alors les Émirats ont toujours cherché à projeter l'image d'un pays ouvert et tolérant. C'est vrai que le pays observe un islam plus modéré que ses voisins, la présence de lieux de culte chrétiens fréquentés par des étrangers est notamment tolérée à la condition que ces derniers restent discrets et surtout évitent le prosélytisme. En revanche, aucune célébration ne peut être faite publiquement aux Émirats Arabes Unis et à ce titre, la messe d'aujourd'hui revêtait donc un caractère tout à fait exceptionnel. Reportage sur place à Abu Dhabi, signé de notre envoyée spéciale Mathilde Imberti.
Les catholiques aux Émirats soient brimés, des églises sont construites, des messes célébrées dans toutes les langues. Celle par exemple de Noreen, expatriée indienne de 27 ans, mais une célébration au stade a une saveur particulière.
Je n'avais jamais mis les pieds tout court dans ce stade. C'est formidable d'être béni par le pape ici. Et d'habitude, je vais à la messe chaque semaine et une fois par mois, je peux même la suivre dans ma propre langue, le Konkani.
L'homélie du pape s'adresse à une communauté catholique constituée d'expatriés, des Asiatiques essentiellement, venus chercher une vie meilleure aux Émirats, riche terre pétrolière.
Pour vous, ce n'est certes pas facile de vivre loin de la maison et de sentir, outre l'absence des personnes les plus chères, l'incertitude de l'avenir. Mais le Seigneur est fidèle et il n'abandonne pas les siens.
Plus politique hier, le pape avait demandé aux autorités d'assurer une liberté religieuse à tous les citoyens, un message à l'adresse de toute la péninsule, y compris l'Arabie saoudite voisine, où seul l'islam est toléré. Joseph, un fidèle Libanais, s'arme de patience.
Et ce qu'on voit ici, c'était dans l'impossibilité avant. Et ce que j'espère bien qu'on va fêter la même chose en Arabie saoudite.
Les conditions ne sont pas encore réunies pour un déplacement en Arabie saoudite, mais le pape François ouvre une brèche avec ce premier voyage de la péninsule arabique.
Pays multiconfessionnel par excellence, le Liban est aujourd'hui régi par un système politique complexe visant à garantir un équilibre fragile entre les différentes communautés religieuses et les grands partis qui les représentent. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il aura fallu quasiment 9 mois de gestation et plus encore de tractation pour que le pays du Cèdre se dote enfin, c'était la semaine dernière, d'un nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre sortant, Saad Hariri. Reste que ce nouveau cabinet ne fait pas partout l'unanimité. Pourquoi ? Parce qu'il compte notamment plusieurs ministres issus du Hezbollah, vainqueur des dernières élections législatives. Or, le mouvement chiite, allié de l'Iran, est non seulement l'ennemi numéro un d'Israël, mais aussi de Washington dans la région, ce qui, Aurélien Colli, n'est pas franchement de nature à rassurer l'administration américaine.
La santé, la jeunesse, les affaires du Parlement, 3 portefeuilles pour le Hezbollah, bien assez pour que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou estime qu'il contrôle désormais le gouvernement libanais et que donc l'Iran contrôle le Liban. Plus nuancé, Washington met en garde sur le ministère de la Santé. Pas question qu'il finance indirectement le parti chiite, considéré comme une organisation terroriste outre-Atlantique et soumis depuis quelques mois à une série de sanctions américaines. Pour rassurer ses partenaires libanais et les bailleurs de fonds internationaux, le Hezbollah donne donc des gages depuis vendredi. Son chef Hassan Nasrallah explique que sa formation ne dévoiera pas un ministère au service du peuple libanais, que ses ressources appartiennent à l'État et que c'est même pour lever toute ambiguïté qu'une personnalité non membre de son organisation a été choisie. En l'occurrence, Jamil Jabak, qui est quand même son médecin personnel, mais qui joue lui aussi la transparence ces derniers jours. « Je n'appartiens pas au Hezbollah, le ministère est celui de tous les Libanais et j'ai été choisi pour éviter tout problème, notamment avec les sanctions américaines. » Pas sûr que cela convainque Washington, qui a promis de scruter les activités et l'utilisation des aides internationales à ce ministère, car 2 analyses s'affrontent. L'une selon laquelle le Hezbollah a voulu ce ministère clé pour soigner ses combattants blessés en Syrie aux côtés du régime al-Assad, pour compenser la baisse de la manne financière de Téhéran frappée par les sanctions américaines et pour satisfaire sa base populaire via des aides médicales. L'autre selon laquelle le Hezbollah cherche surtout à renforcer sa présence sur la scène intérieure libanaise en s'impliquant davantage dans l'État pour gagner en crédibilité et élargir son assise au-delà de ses partisans. Des sanctions américaines contre son ministère de la Santé pourraient alors être contre-productives en poussant le Liban vers lui et vers l'Iran.
Depuis la chute du président François Bozizé, c'était en 2013, qui avait marqué le début d'une profonde crise en Centrafrique. Plusieurs groupes armés contrôlaient le pays, obligeant une mission de l'ONU, la MINUSCA, mais aussi l'armée à tenter d'empêcher les violences quotidiennes. On vient de l'apprendre ce matin, un accord de paix entre gouvernement et groupes armés a été paraphé à Khartoum. Après avoir fermé le front avec la désormais République de la Macédoine du Nord, et après avoir poser les jalons de la normalisation avec l'Albanie voisine, laquelle conteste la frontière maritime de la Grèce, Alexis Tsipras s'attaque au gros du problème des relations de son pays avec ses voisins frontaliers, la Turquie. Le Premier ministre grec se rend aujourd'hui pour une visite de 2 jours en Turquie, au menu des discussions donc la question migratoire, mais aussi les différents bilatéraux qui depuis quelques mois vont crescendo. On termine avec un mot rapide de météo, ciel gris et humide sur le sud-ouest et la Bretagne. En revanche, sur toute la moitié est du pays, là, le temps sera ensoleillé. Les températures en légère hausse, elles seront généralement comprises entre 4 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.